Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour parler temps qui court, tous les soirs, une heure de conversation, et ce soir avec Claudine Nougaret.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Le son habite partout.
Par les temps qui courent,
Marie Richeux et Claudine Nougaret.
La 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 la, ti ta la ta, ti la ta ti ta 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 ta, ti ta 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 ta. Quand vous filmez dans une institution, vous vous apercevez qu'il y a une musique qui s'installe. Une musique faite d'automatismes, de mots répétés qui s'enchaînent harmonieusement. À force, tout le monde a la rythmique de l'audience dans sa tête. Les procureurs, les magistrats, les greffiers, les avocats. Ils interviennent les uns après les autres en respectant le rite. Et au bout d'un moment, vous intégrez aussi cette mélodie. La mélodie de la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris, c'est vous qui en parlez si bien, Claudine Nougaret, car c'est vous la première qui l'enregistriez avec pas moins de 14 micros sur le tournage de ce film incroyable, La 10e chambre, sorti il y a pile 15 ans. C'est un texte qui figure dans ce livre, paru chez Point, Claudine Nougaret, Raymond Depardon, Dégagez l'écoute, consacré à votre travail, à vous, et puis un petit peu à tous les deux, et puis de manière générale au son, dans le cinéma. Bonsoir Claudine Nougaret.
Bonsoir.
Puisque c'est un travail qui s'est fait en compagnie, main dans la main, en couple avec Raymond Depardon, on commence par sa voix.
On écoute mal. On sait pas de la faute de la personne, mais voilà, on écoute mal dans la vie, et on écoute mal quand on regarde. C'est compliqué hein, d'écouter. Moi, j'écoute mal moi aussi, je suis comme tout, beaucoup d'hommes. Je dis d'ailleurs que les hommes écoutent moins bien que les femmes. Je crois qu'une femme, dès son enfance, dès son éducation, elle est dans une situation d'écoute supérieure aux garçons. Et je me suis aperçu que le cinéaste de cinéma direct, il doit être féminin, dans une situation d'écoute. Rien d'autre. Pas de poser des questions, pas d'analyser, pas de donner son point de vue. On s'en fout que le caméraman nous donne son avis. Il est là pour écouter. Et c'est à nous à porter un jugement. Comment dégager l'écoute? Alors, ne pas bouger, effectivement. Laisser les gens ne pas répondre à une question, mais les laisser un peu dans le flux de quelque chose, d'une pensée qui est la leur, et se mettre à leur hauteur. Donc ça peut être un Indien, Yanomami, ça peut être un mathématicien. D'un seul coup, il va donner quelque chose, une pensée. Il faut que quand nous, spectateurs, ou nous, écouteurs, on puisse partager un peu cette pensée. Ça dure peu de temps. Et c'est ce partage qui est difficile. Parce que la caméra, en fond, finalement, nous rend pas service. C'est une loupe, c'est quelque chose d'artificiel. Et on croit entendre et on n'entend pas.
On croit entendre et on n'entend pas et on écoute mal. Vous avez probablement reçu et reconnu cette voix, celle de Raymond Depardon. Comment, c'est une voix que vous écoutez comment, cette voix-là, Claudine Nougaret?
Bah, moi, il m'endort, en fait. C'est-à-dire qu'il est très, très bavard, en fait. C'est un photographe bavard. Donc, je le vois comment il développe sur l'écoute, sur le son et tout ça. Enfin, il faut dégager l'écoute, mais enfin, il y a beaucoup de technique derrière. Donc, il faut recueillir cette précieuse voix qui est offerte, qui est comme un talisman, et il faut lui donner corps. Donc, il faut beaucoup de matériel, beaucoup de réflexions techniques avant. Donc quand je dis qu'il m'endort, c'est que il est très très il est intarissable sur son travail. Donc il peut parler très très longtemps. Marguerite Duras me faisait un peu le même effet à la radio aussi. C'est une voix que j'aime beaucoup, qui est très imagée.
Que vous aimez beaucoup, mais qui vous endort quand même.
Un petit peu.
Comme Marguerite Duras. Pour les personnes qui écoutent bien, vous avez peut-être entendu un autre rire, c'est celui de Lucie Riandet. Elle est dans le studio avec nous. Ça fait 6 mois qu'elle est avec nous dans l'équipe de Parler Temps qui court. C'est un stage qui dure 6 mois. C'est le dernier jour. Donc, t'es là, Lucie.
Bonsoir à tous.
Peut-être une réaction aussi quand même à propos de ce que dit Raymond Depardon, qui dit « on écoute mal, on a l'impression qu'on écoute mais on n'entend pas ». Est-ce que vous avez cette sensation-là, avant qu'on parle de cinéma, dans le monde en général, dans les relations humaines, qu'on n'écoute pas bien, qu'on ne sait pas très bien faire ce travail-là ?
C'est-à-dire que l'écoute, c'est pas uniquement la parole, quoi. C'est aussi la gestuelle, c'est aussi l'égard par rapport aux gens, c'est toute une attitude. Donc il y a beaucoup de gens qui écoutent pas bien, oui, bien sûr, je pense. Mais il y a des moments où on écoute bien, puis il y a des moments où on écoute pas bien. Il n'y a pas de généralité, je crois qu'on est tous, les mêmes. On n'est pas toujours prêt à écouter les autres. Il faut se mettre en... Faut le vouloir d'écouter les autres. C'est pas quelque chose qui est. C'est tout un travail, quoi. C'est comme pratiquer un instrument de musique. Apprendre à écouter, ça se travaille. C'est toute une éthique, c'est toute une assise, une volonté, quoi.
Si pour l'écoute, c'est aussi une question de gestuelle et d'observation, du coup, est-ce que c'est pour ça que vous avez fait du cinéma, par exemple, et pas seulement de la radio, parce que l'image est un élément. Important dans cette écoute.
En fait, moi, je fais du son pour et avec une image. Je fais pas du son en soi. Je fais pas du son pour la radio. Moi, contrairement aux photographes, quand ils ont fini de faire un travail photographique, ils prennent leur appareil et continuent à photographier leur famille. Moi, le dimanche, je fais pas des sons. Je suis pas du tout. Je suis vraiment dans un cadre de son pour une image et de travail d'équipe, ou là en l'occurrence un travail de couple, mais je suis vraiment dans cette démarche-là, de raconter une histoire en même temps que l'image. Ça, c'est ça mon motif, c'est ça ma passion, c'est ça que je sais le mieux faire. Je pense que faire du son pour la radio, c'est vraiment complètement autre chose, c'est vraiment une autre démarche. Moi, je trouve que pratiquer le son pour une image, c'est comme pratiquer un instrument, c'est comme si j'étais un instrumentiste. Peut-être qu'il y a plus de création dans le son de la radio.
Est-ce que vous diriez que ça s'apprend ? Si ça se fait pas bien toujours, si on n'est pas toujours prêt à écouter, est-ce qu'on apprend à être prêt à écouter ?
Ah oui, mais c'est comme pratiquer un instrument, c'est-à-dire qu'on fait des gammes, et puis un jour, hop, on a l'oreille qui s'ouvre. Et écouter pour enregistrer, c'est la même chose. Et tout d'un coup, vous dites « Ah mais oui, c'est comme ça que je dois le restituer, c'est comme ça que je l'entends et c'est comme ça que je vais le rendre. » Et moi, j'ai eu ce miracle. Un jour, j'ai senti que mes oreilles s'ouvraient parce que j'avais pratiqué pendant des heures et des heures et des heures. Et je le rapproche de la pratique musicale. Ouais.
Ça s'est ouvert quand, juste quand même?
Assez jeune, oui. En fait, moi, j'ai commencé à faire du son. À l'époque, ça ne s'appelait pas la FEMIS, avec les gens de l'IDEC. Et on faisait...
École de cinéma.
On enchaînait des courts-métrages. Et puis un jour, j'ai senti que... Ah ben oui, c'est évident. Il y avait une espèce d'évidence. C'était plus... Le son me paraissait plus du tout compliqué. C'était comme ça qu'il fallait l'entendre et qu'il fallait le restituer. Et parce que... L'avantage de faire du son pour le cinéma ou pour la télé, c'est que on travaille sur les sons du quotidien avec, et on essaye de les restituer au mieux de ce qu'on entend. Mais moi, je travaille de façon à ce que la sensation première que j'ai eue pendant le tournage, elle arrive jusqu'au spectateur. Parce que j'ai la chance d'être aussi productrice. Enfin, la chance, je sais pas si c'est une chance. Bon, je produis les films. Donc, du coup, j'amène le son que j'ai fait en direct jusqu'à la salle de cinéma. Ce qui n'est pas toujours le cas pour les autres ingénieurs du son, parce qu'après, il y a plein d'équipes qui interviennent. Donc là, je garde le contrôle jusqu'au bout. Et donc, j'essaye de restituer ces bruits de la vie que j'ai entendus la première fois. Cette espèce de grâce que j'ai trouvée à des moments pendant les prises. J'essaye qu'elles arrivent jusqu'à l'oreille du spectateur. Et que lui aussi, il ait cet enchantement que j'ai pu avoir en écoutant un bruissement de vent, un passage de mouton ou une belle voix posée, une belle diction.
Vous dites que finalement, au moment où ça s'est ouvert, c'est comme si vous aviez compris quelque chose, compris ce que vous entendiez. Et moi, j'ai vraiment trouvé que, à la fois dans le film Dégager l'écoute, où vous témoignez de votre travail de prise de son, d'ingénieur son, montage son, mais aussi dans les textes qui sont reproduits dans ce livre, que la question de la clarté, de la compréhension était quelque chose qui revenait assez souvent dans votre rapport au son. Est-ce que c'est ce qui prime pour vous, notamment dans le son de documentaire? Il y a quelque chose qui doit être intelligible, lisible?
En fait, bon, c'est à la base aussi du son au cinéma, parce que comme les spectateurs sont assez exigeants, puisque la moyenne d'écoute de la télé en France, je crois que c'est 3h15. Donc pendant 3h15, ils entendent avec une proximité de voix qui fait qu'on ne peut pas faire autrement au cinéma que d'avoir des voix très proches. On est obligé de détailler tous les sons.
Ah, et vous pensez que c'est en lien avec notre consommation de la télévision?
Ah oui, complètement.
Oui, parce qu'on est trop habitué à entendre proche, en fait.
Quand vous écoutez les films des années 70, où les gens regardaient beaucoup moins la télé, il y avait des plans sonores. Maintenant, on peut plus faire des plans sonores. Maintenant, on spatialise, mais on peut plus dire, là, quand la personne va s'éloigner de la caméra, on l'entendra de moins en moins. Ça, c'est plus possible. On peut plus. Avant, on le faisait. J'ai des souvenirs de films où on laissait partir le son, le texte, comme ça. Et puis, on disait, le spectateur va bien comprendre. Maintenant, c'est plus du tout la même chose. Tout le monde doit être complètement intelligible, comme s'il était un présentateur télé, ouais. Quoi. Voilà. HF sur la chemise. Donc ça, c'est la clarté de la voix. Et puis, il y a aussi, quelque chose qui, que j'ai compris, c'est que le spectateur, il a confiance quand il ne doute pas sur ce qu'il entend. C'est-à-dire que pour avoir confiance en vos documentaires, il faut que ça soit clair et lisible. Il faut qu'il n'ait pas de doute, qu'il n'ait pas l'impression qu'on lui a trafiqué quoi que ce soit, ou qu'on lui cache quelque chose, ou qu'il tende l'oreille.
Mais c'est une confiance qui a à voir avec le fait que le documentaire se frotte au réel ou fait avec le réel. Vous pensez que du coup c'est pour ça qu'on doit aller chercher la confiance?
Oh bah oui, c'est important la confiance. C'est important parce que si les spectateurs n'ont pas confiance, ils vont être réfractaires au film et ils vont pas se laisser aller. Le son est, en général, on en parle quand il y a des problèmes, sinon on n'en parle pas. Donc il faut que ça soit une harmonie avec l'image et que le spectateur se laisse aller au documentaire et à l'écoute des récits des personnes. C'est souvent, en plus, nous, on a filmé des films dans des situations un peu difficiles, un peu conflictuelles, et le spectateur est pas forcément mal à l'aise parce que ça lui renvoie un miroir de la société qui est pas facile. Donc si en plus il doit tendre l'oreille et doit douter de ce qu'il entend, etc.
C'est trop lui demander.
Ben oui, je pense, oui. Et même moi, en tant que spectatrice, hein. Si la caméra bouge tout le temps et qu'on comprend pas, et que bon, aujourd'hui on zappe. Hein.
1987, vous filmez aux urgences, urgence psychiatrique. Ici, c'est une femme dans la chambre, et à un moment donné, la personne qui était du corps médical sort du champ et de la chambre, et vous restez.
On m'a terriblement aidée. Je veux aider les autres. Aller voir ce film.
Oui, bien sûr.
Je voudrais faire pour les autres. Je voudrais aider les gens.
D'un côté, on sent que il faudrait presque que vous disparaissiez pour laisser place à la parole de ceux qui sont filmés. Mais en même temps, notamment dans ces institutions-là, le rapport qui se tisse avec les gens filmés. C'est aussi le sujet. Comment vous faites pour gérer cette ambiguïté-là?
Je pense qu'on a une écoute bienveillante, compassionnelle. Mais bon, nous ne sommes pas des médecins. L'avantage qu'on a, justement, c'est de ne pas être des médecins. C'est-à-dire que les gens s'adressent à nous parce qu'on n'a pas, on n'est pas la police, on n'est pas la justice et on n'est pas un médecin qui va vous hospitaliser de force. Mais on gère ça pas toujours, c'est pas toujours évident. Parce que des fois, on nous demande de prendre parti et on n'a pas à prendre parti. Et c'est un peu compliqué. Mmh. C'est pas toujours évident. Donc, là, je repense à l'extrait que vous avez mis. C'est une jeune femme qui, comme beaucoup de personnes qu'on a filmées, qui était décédée un an après. Donc, la douleur, elle est réelle. C'est très, très fort. C'est très impressionnant. Et il faut garder la tête froide. Pour pouvoir continuer à filmer et pas commencer à faire ami-ami avec eux, parce que sinon le film, il n'existerait pas.
Et parfois, vous avez eu le sentiment d'être un élément qui sortait de l'enfermement, du fait que vous êtes justement des éléments extérieurs?
Oui, je pense qu'il y a un autre extrait que vous auriez pu mettre. Il y a un moment donné, il y a une dame qui est hospitalisée comme ça et qui a été violée et qui me parle parce que je suis enceinte et qui s'adresse à mon ventre. Et donc Raymond Depardon a pas noté avec la caméra pour me montrer enceinte et elle dit des choses terribles. Elle dit j'ai été violée, j'ai gardé l'enfant, j'ai travaillé dans une crèche pour être plus proche de l'enfant. Moi, j'étais enceinte de 8 mois, je trouve ça terrible. Et je fais partie de ce moment. Et elle s'est adressée à moi, elle l'aurait pas raconté à la psychiatre avant. Qui, elle, était pressée parce que dans les hôpitaux, même déjà à l'époque, l'urgence était de trouver une place, trouver un lit. C'est exactement comme maintenant aujourd'hui. C'est peut-être pire aujourd'hui. Et donc, la patiente n'avait pas le temps de s'exprimer. Donc, nous, comme on était là, elle nous racontait tout ça, quoi. Mais il faut rester à sa place. On n'est pas des soignants, on n'est pas des. Nous sommes des gens qui filmons, nous sommes juste des témoins.
Je commençais l'émission en parlant de la mélodie dont vous parlez, vous, Claudine Nougaret, des institutions, justement, donc en l'occurrence d'une 10e chambre tribunal correctionnel de Paris. Finalement, il y a aussi une mélodie, on l'entend très bien dans l'extrait sonore de Urgence, il y a une mélodie des hôpitaux, il y a la mélodie des portes, la mélodie des lits qui montent, qui descendent, la mélodie des mots qu'on prononce tout bas ou très fort quand on est une infirmière et qu'on vient faire un soin, la mélodie d'un médecin qui annonce un diagnostic. Ces mélodies-là, vous mettez du temps. Vous parliez du temps là, du temps de parole, mais vous mettez aussi probablement votre propre temps, vous, à les entendre. Est-ce qu'à un moment donné dans le tournage, vous sentez que ça y est, elle est arrivée jusqu'à vous, cette mélodie, d'une certaine manière, vous la comprenez ?
C'est la difficulté du documentaire, c'est que dès le premier jour, on peut monter la première prise. Donc on n'a pas le temps de s'apitoyer sur son pauvre sort de technicien qui comprend rien à ce qui se passe et que donc il faut très très vite être dans le tempo de l'institution. Et oui, c'est comme ça que le film sera bien. C'est que si on fait complètement corps avec le film et avec le sujet, que ce soit à l'image ou au son, et qu'on est prêt à tout et qu'on absorbe tout ce qui se passe. Et pas uniquement les personnes qui parlent devant. Et effectivement, ce son de porte, j'ai été le chercher. Moi, il me plaisait beaucoup, ce son de porte. Je trouvais qu'il était grincé comme ça. Il crée une tension, quoi.
Peut-être qu'il faut dire ce que ça veut dire aller le chercher. Qu'est-ce que ça veut dire aller le chercher concrètement, techniquement?
Alors, techniquement, pour les gens. En fait, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de 14 micros, mais 14 micros, ça n'a aucun intérêt. Moi, je travaille avec un seul micro, avec une perche, et je module avec la perche. Je module pas du tout avec les potentiomètres. Donc, aller le chercher, moi, je me compare un peu à une danseuse. C'est-à-dire que j'avance, je recule, et en fonction des bruits, et je vis complètement, je fais corps avec les éléments sonores.
Alors, moduler, on va essayer d'être un peu clair et aussi en même temps physique, parce que c'est tellement intéressant, puis c'est par ailleurs aussi nos métiers. Moduler avec les potentiomètres, ça voudrait dire que vous iriez chercher ce son de porte avec des boutons. Là, c'est parce que vous vous déplacez, vous, Claudine Nougaret, que vous déplacez votre perche et votre micro, que vous vous rapprochez de cette porte.
Voilà, c'est-à-dire que le principe, c'est qu'il y a... Il n'y a qu'une seule bonne position de micro, comme il y a une seule bonne position de caméra, comme dit Jean-Luc Godard, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une seule source sonore et on se positionne par rapport à ça. Et c'est pas en augmentant le volume que l'on va augmenter, puisque en augmentant le volume, on va augmenter toute l'ambiance et on n'aura pas l'événement sonore. Donc c'est avec son corps et les perchemans, alors je suis désolée, on dit pas perchiste en fait dans le cinéma français. Les perchemans sur les films de fiction ne font que ça, c'est faire corps avec l'acteur comme ça. Donc quand l'acteur tourne à gauche, on va à gauche, etc. Et d'être complètement en fusion avec la personne qui parle. Et effectivement, j'ai appris ça sur les films de fiction et en documentaire, je pratique la même chose.
Raymond Depardon, il dit que dès lors que vous avez commencé à travailler ensemble, il a pu retrouver sa bonne distance de personne qui fait l'image, parce que libéré du son d'une certaine manière, ça lui permettait de retrouver sa place, une bonne place. Et tous les deux, vous parlez de distance. Est-ce que vous pensez que c'est un jeu qui est différent, la distance à trouver pour faire de l'image et la distance à trouver pour faire du son ?
Oui, c'est pas du tout la même chose, oui, parce que en fait, moi, je le fais dans un cadre d'image et lui, il fait le cadre. Donc, mais par contre, il est obligé d'écouter pour faire son cadre. Donc, c'est chacun a sa ligne directrice. Mais lui, il a pu reculer avec sa caméra dans la mesure où moi, je m'approchais pour enregistrer les gens. Parce que quand il a fait le film Reporter et le film Fait divers qu'il a fait tout seul, il était obligé de toujours être très très près des gens pour entendre ce qu'il dit. Du coup, il filmait tout en gros plan. Et quand j'ai commencé à travailler avec lui, il a pu prendre... Lui, c'est un photographe du 50 mm et il filme de la même façon, avec un peu plus de recul qu'un gros plan.
Pourquoi vous avez laissé croire à tout le monde que c'était un seul cow-boy solitaire, pour reprendre vos mots, en ne signant pas et en apparaissant pas au générique au début? Vous dites qu'il fallait laisser croire aux gens qu'il était, je sais plus comment vous dites ça, un cow-boy solitaire, qu'il était tout seul à
un
tout faire.
Un nomade solitaire.
Ah, merci, voilà, c'est ça. C'est-à-dire,
il se vendait comme un nomade solitaire. Et, au début, ça me dérangeait pas. Et puis, si je me posais pas la question, j'avais fait plein de films de fiction, comme Ingénieur du son, comme Perchman, je sais pas, ça me paraissait, j'avais pas réfléchi. Puis après, je me suis dit, non, mais attends, ça va pas du tout, quoi. Ça fait quand même 15 films que je fais le son, que je co-signe, sans co-signer, et voilà, et à partir de Journal de France. Mais après, sur Les Habitants, j'ai pas co-signé. Il a revoulu prendre son, mais le prochain, je le co-signe encore. Enfin, moi, c'est un peu
attention,
compliqué.
Hein.
Les histoires de couple.
Bah oui.
Ça regarde pas tout le monde.
On voit quand même le petit badge 50-50 sur votre.
Ah oui. Mais oui, le collectif 50-50, j'étais déjà au deuxième regard avant. C'est très important et j'espère que c'est quelque chose qui va se propager dans tous les milieux de la culture et pas uniquement au cinéma.
Lucie, peut-être préciser ce que c'est? Ou Claudine Nougaret?
Oui, c'est un collectif de femmes du cinéma qui ont réfléchi à comment instaurer la parité sur les plateaux, dans les productions, dans les distributions, et qui ont eu un fait de gloire à Cannes quand elles sont montées, à 92 je crois, je sais plus combien elles étaient.
Nombreuses.
Comment ?
Nombreuses.
Nombreuses sur les marches pour dire qu'il y en avait marre que les femmes ne soient pas représentées dans les métiers du cinéma. Et moi, depuis que je fais ce métier de productrice, j'ai toujours imposé la parité, même plus sur les films, parce que je trouve que c'est insupportable quand il n'y a que des garçons ou que des filles. Il faut trouver un...
C'est d'ailleurs une des choses que vous avez remarquées en entrant dans ce studio et dans la régie. Vous avez dit, quelle équipe féminine ?
Mais oui, parce qu'il y a très peu d'endroits où il n'y a que des femmes.
C'était une fête pour moi, ça représentait quelque chose d'important. C'est l'entrée dans un univers, faire partie d'une confrérie. C'est un peu comme si l'appareil faisait la fonction. Le fait d'avoir un agra.
Tu travailles avec Michel ?
Non, je travaille à son côté.
Michel Caïs, chef opérateur du son à Radio France. Le fait d'avoir un agra, c'était un peu comme un adoubement pour les chevaliers. Enfin, on donne une épée et là, bon, moi j'avais mon agra. Là, enfin, je peux enregistrer. C'est pas du tout la même chose que d'enregistrer avec un autre appareil.
En même temps, tu t'enregistres ?
Oui, qu'est-ce que tu veux me demander alors ?
Est-ce que tu pourrais le décrire, celui-là ?
Voilà. Moi, ce que j'aime surtout, c'est le bandeau. Un rectangle, gris métallisé. Et ça, c'est un agra d'un 4L qui est équipé pour le cinéma. Moi, j'avais acheté en pensant faire du cinéma. Quatre têtes, un vu-mètre sur la gauche, comme un gros œil, une petite aiguille qui se déplace. La tête supplémentaire sert à enregistrer le signal pilote, qui est délivré par la caméra ou par un quartz, et qui sert ensuite à faire le report sur une bande 16 mm. Trois petits boutons noirs, et tout écrit en anglais. Deux voyants à droite, défilement de la bande, l'alimentation du moteur, le signal pilote. Alors c'est marqué manual. Alors le mien est manual only. Level, les trois micros, le mic, fonctionnement normal, l'œil devient blanc. C'est un trèfle, line, playback, c'est un trèfle. Tape, direct. Ensuite, il y a un bouton assez sobre qui sert à... Puis ensuite, record, test, stop. À choisir la playback. Fonction. Soit l'enregistrement, soit le test, soit la lecture.
Et que veut dire Nagra ?
Ah, ça. Ça, je sais pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui, quand on dit un Nagra, pensent que c'est Agra. C'est un Agra. Un peu comme ils peuvent confondre avec Lara, le perroquet, parce que ça magnéto enregistre et répète, ça pourrait très bien être ça. Nagra, je sais pas du tout. Ça a quelque chose de sauvage, un peu, hein, Nagra.
1987, Yann Parent-Owen interviewe Michel Kreis, ingénieur du son, pour ce film On Nagra. Lucie, tu voulais poser une question à Claudine Nougaret.
Oui, on parlait d'égalité femmes-hommes. Michel Cray parle de confrérie. La technicité, c'est quand même un élément qui participe, enfin un élément masculin, quoi, qui participe de l'exclusion des femmes. Il parle aussi d'adoubement. Est-ce que quelqu'un vous a adoubé, vous ?
Non, pas vraiment, non. À part si Éric Rohmer m'a adoubé comme ingénieur du son.
C'est
mais
pas mal.
Je l'entendais, là. Je me disais, quelle chance que d'être une femme qui expose à la BNF du son direct. Alors, c'est la première fois qu'on expose du son direct. Et en plus, je suis une femme. Donc, il y a très, très peu de femmes ingénieurs du son de mon âge qui peuvent faire la même chose. C'est vrai que les ingénieurs du son sont plutôt des hommes depuis très longtemps, que la technique, quand vous allez acheter un appareil électronique à la Fnac ou chez Darty et que vous êtes une femme, on vous traite comme moins que rien, comme si vous comprenez rien, et que c'est un milieu qui est quand même très sexiste et paternaliste. Peut-être que ça va s'arranger, mais tout ça est très long. Et j'ai eu autant de difficultés à acheter du matériel à la Fnac que pour devenir ingénieur du son. C'est une espèce de... Plusieurs fois, je me suis retrouvée avec des réflexions. Une fois, je mixais, je faisais un doublage, parce que j'ai fait du mixage aussi, je faisais un doublage pour Cousteau. Il y a quelqu'un qui est rentré dans l'auditorium qui fait « Où est le mixeur ?» Je dis « Je suis là. » Mais enfin, quand même, il est où ? J'étais à la console et c'était tout à fait normal de me dire que c'était pas possible que je sois le mixeur. Donc oui, ça n'a pas été facile, oui.
Mais vous n'avez pas eu d'adoubement, du coup, comment vous avez trouvé cette audace-là ?
Je ne sais pas comment je trouvais cette audace-là. Si, peut-être parce que j'ai fait de la musique et que c'était pire dans la musique.
Donc à tout prendre, une fois que vous étiez bien forgé.
J'ai compris que dans le cinéma, il y avait une convention collective et qu'il y avait des lois et des règlements et qu'on ne pouvait pas tout faire n'importe quoi comme dans la musique. Je travaillais un peu dans les studios de musique et très vite, j'ai vu que soit je passais à la casserole, soit je ne continuais pas, quoi. C'était à peu près ça. Donc dans le cinéma, il y avait quand même un respect humain, il y avait des syndicats, il y avait de la formation permanente et qu'il n'y avait pas la sauvagerie de la musique. Et donc, je me suis spécialisée dans le son et avec grand bonheur, avec grand plaisir. Et j'ai été instruite par des ingénieurs du son qui pensaient que je continuerais pas. Et quand j'ai fait des films comme chef opérateur du son, ils m'ont appelé en disant « Attends, c'est pas normal, là. C'est moi qui devrais faire ces films-là, pas toi. »
Et c'est vous qui exposez à la BNF.
C'est moi qui...
Et entre autres, vous exposez des nagras, des machines, des micros. Vous parliez de fétichisme en souriant, en écoutant cet extrait sonore. Mais néanmoins, dans les vitrines, vous montrez vos machines. Vous montrez vos micros. Vous montrez quand même les outils qui ont fait que vous avez fait le son de tous ces films-là.
Oui, alors ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est qu'on part de l'analogique et on va jusqu'au numérique. Et aujourd'hui, le grand public connaît le numérique miniaturisé.
Et les disques durs, hein. C'est très émouvant de voir ces petits disques durs orange.
Ouais. Voilà. Et on est passé par des espèces de gros mammouths quand même en numérique, très très lourds, qu'on pouvait pas porter. Et jusqu'à encore aujourd'hui, le matériel professionnel numérique est assez lourd et assez imposant, quoi. Il ressemble un peu à du matériel d'aviation.
Il semble que pour vous, c'est important d'avoir le meilleur matériel pour enregistrer des gens, entre guillemets, ordinaires et pas uniquement, du coup, des stars, pour leur rendre justice, du coup.
Enfin, moi, je veux rendre justice à personne. Hein. Je pense qu'effectivement, il faut pas, dans les situations compliquées où les personnes sont déjà déclassées socialement, on va pas, en plus, rajouter de la misère de matériel. Il faut que, il faut les aider. Il faut les rendre belles, il faut bien les entendre, ça c'est hyper important, ne serait-ce que par respect, parce que ces personnes-là qui sont dans des situations difficiles acceptent qu'on les filme, c'est un grand cadeau. La seule chose qu'on peut faire, c'est être les meilleurs possibles. En les respectant et en les montrant et en les entendant au mieux, quoi.
C'est ça que vous entendez par dégager l'écoute, Claudine
Nougaret ? Oui, ça fait partie de ça et ça fait partie. Une autre chose, c'est aussi de suivre le film sur toute sa longueur. C'est-à-dire que d'être dans l'auditorium de mixage et d'écouter et de travailler jusqu'à ce qu'on entende au mieux. Quoi.
On va entendre une prise de son d'une voix toute singulière. C'était à la télé, hein. On a dit du mal de la télé, mais...
Non, moi je dis pas de mal de la télé.
Non, vous dites qu'elle habitue notre oreille.
Non, je dis que les gens écoutent la télé 3h45 par jour.
Eh ouais, que ça formate leur oreille quand même.
Bon, oui.
On dit pas du mal. On va écouter Gainsbourg qui chante à la télé. Et on enregistre très bien sa voix.
que tes cheveux s'amusent à défier le soleil par leur éclat de feu, parce que tu as 20 ans, que tu croques à la vie comme un fruit vermeil que l'on cueille en riant. Tu te crois tout permis et n'en fais qu'à ta tête. Désolé un instant, prêt à recommencer. Tu joues avec mon cœur comme une enfant gâtée qui réclame un joujou pour le réduire en miettes. Parce que j'ai trop d'amour, tu viens voler mes nuits du fond de mon sommeil et fais pleurer mes jours. Parce que je n'ai que toi, mon cœur est mon seul maître. Et maître de mon cœur, l'amour nous fait la loi. Parce que tu vis en moi et que rien ne remplace les instants de bonheur que je prends dans tes bras. Je ne me soucierai ni de Dieu ni des hommes. Je suis prêt à mourir si tu mourrais un jour, car la mort n'est qu'un jeu comparé à l'amour, et la vie n'est plus rien sans l'amour qu'elle nous donne. Parce que je suis au seuil d'un amour éternel, je voudrais que mon cœur ne porte pas le deuil.
C'est super beau, c'est un texte de Charles Aznavour et c'est chanté par Gainsbourg. Ici, Claudine Nougaret, peut-être pour vous faire reparler des voix et de votre rapport à ça, à cette chose humaine que sont les voix. Vous avez quoi comme rapport avec les voix? Parce que vous en avez enregistré beaucoup et des très différentes.
Oui, j'ai enregistré beaucoup de voix et je sais que les voix de femmes sont plus difficiles à enregistrer que les voix d'hommes. Parce que j'ai une théorie, elle vaut ce qu'elle vaut, je pense que les fabricants vont pas forcément être d'accord avec moi, mais je pense que les micros seront plus faits pour les hommes que pour les femmes.
Comme une sorte de norme vocale?
Oui, c'est-à-dire qu'on apprécie, culturellement, on aime plus les voix basses que les voix aiguës. Donc, les micros restituent mieux les basses que les aiguës et les médiums. Et donc, on le voit bien, nous, sur les tournages, quand on a des voix, des fois, de femmes, on essaye toujours de trouver le bon micro et on n'a pas forcément la bonne chose. Donc, on essaye, on change de marque. Sur les films de fiction, on a, par exemple, un micro pour un acteur, un micro pour un autre et on varie. Et sur les voix de femmes, on n'a pas un panel aussi important que pour les voix d'hommes. Et puis, surtout, moi, je le vois parce que à la télé, à la radio, souvent, les voix de femmes, elles passent pas bien. Et je pense que les fabricants n'ont pas travaillé comme ils devraient.
On a des micro-sexistes, quoi.
Ben ouais,
heureusement qu'on a des très très bons ingénieurs, sont quand même passés.
Non, mais ça restitue moins bien les médiums que les basses, quoi. Ça, c'est sûr. Et puis, culturellement, on est attiré par les voix graves.
Pourquoi?
Ouais, ça remonte à Platon. C'est-à-dire que sous Platon, il disait qu'il fallait pas entendre les voix de jeunes filles, il fallait pas entendre les voix de jeunes hommes, et qu'il fallait entendre que les voix des hommes âgés, enfin de 40, 50 ans. Donc on est tous pétris de cette culture qui remonte à l'Antiquité, et qui nous a forgé l'idée que ça pouvait nous distraire. Par exemple, saint Thomas d'Aquin.
Mais c'est le caractère quoi, sexuel, érotique?
Après avoir entendu des nonnes qui chantaient. C'est-à-dire qu'il y a.
Cachez-moi cette péché, voix que je ne voudrais pas entendre, quoi. Vous dites que vous en jouez des voix comme d'un instrument, et puis vous rappeliez à Lucie Riendet tout à l'heure votre formation d'instrumentiste, votre formation musicale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, quand on enregistre des voix dans une salle d'audience ou dans un hôpital ou dans la campagne, peut-être on les maîtrise comme un instrument au fur et à mesure du tournage? On apprend à en jouer d'une certaine manière?
Jouer, je sais pas, dans tous les cas, on est en tension avec la personne qui parle. Et moi, je sais que quand je tourne, je suis complètement accroché à toute la, à la source sonore qu'est la voix de la personne. Et je dirais pas jouer. J'essaye d'être la plus performante possible. Après, chacune a son harmonie, a son tempo, a sa diction, mais c'est pas un jeu. C'est sérieux. Enfin, c'est assez moral de faire du cinéma documentaire. C'est pas du tout, on rigole pas, hein. En plus, vous avez vu les sujets qu'on aborde, on n'est pas là pour rigoler. Donc, il y a une, je répète, peut-être que ça va barber tout le monde, mais il y a beaucoup d'envie de respecter ces gens-là et de les restituer au mieux.
Vous êtes là pour quoi alors, si vous n'êtes pas là pour rigoler? Tout à l'heure, Lucie Riondet parlait de rendre justice et vous avez dit on n'est pas là pour rendre justice.
Non, parce que si vous voulez, quand on filme Dixième Chambre ou Délit flagrant, on n'est ni du côté du prévenu, ni du côté du magistrat. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il faut que le spectateur...
Vous n'êtes pas dans un camp?
Non, il faut que le spectateur puisse aussi bien s'identifier au prévenu qu'au magistrat. Chacun se fait son opinion. Mais c'est pas les petites annonces de libération et les pleurs des prisonniers. C'est pas ça du tout. Je pense que si on veut parler de notre société et de notre justice, il faut pas avoir qu'un seul point de vue. Il faut être équidistant entre le magistrat et le prévenu. C'est pour ça que je vous dis qu'on rend pas justice. Non. On rend pas justice. Peut-être qu'on le rend au final dans l'esprit du... En tous les cas, nous, on essaye d'avoir une espèce de neutralité si c'est possible. Enfin, bien que ça n'existe pas, la neutralité, mais de pas prendre parti techniquement.
Justement, quand je disais rendre justice, c'était plutôt par rapport à une fidélité au réel, mais ce rapport au réel, justement, enfin, vous dites qu'il n'y a pas de neutralité, parce que vous faites des choix sonores, par exemple, ne pas effectuer de redondance par rapport à l'image, avec le son, mais c'est comme si, dans la façon dont vous évoquez le réel, comme si il y avait un réel brut, qui, je sais pas, source d'étonnement et qu'il fallait, que c'était cet étonnement-là qu'il fallait toujours reverser. Est-ce que c'est ça pour vous?
Oui, moi je pense que c'est important de garder la première émotion et de la transmettre parce que quand on enregistre du son, on transmet de l'émotion. Et donc, si je peux garder ma première impression et l'amener dans l'oreille du spectateur, c'est formidable.
Donc la neutralité, ça va être le fait de reverser l'impression de...
Enfin, c'est pas la neutralité. Je veux dire, forcément, il y a ma subjectivité à moi, parce que chaque ingénieur du son n'enregistre pas de la même façon. Moi, je vais avoir... Vous avez entendu tout à l'heure, je suis allée chercher la porte. D'autres ne seraient pas, auraient voulu masquer ce son de porte qui est perturbateur. Moi, je trouvais que ça rajoutait à l'angoisse du lieu. Et voilà, donc, il n'y a pas de neutralité. Mais j'amène le plus possible mon impression à moi et je signe. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de neutralité. C'est subjectif.
Lorsqu'on travaille avec le son, on est obligé de prendre une totalité d'un lieu. C'est-à-dire que avec la photo, on cadre, on recadre, on prend un bout du réel, un morceau, on décide d'un hors-champ, etc. Le son, même si on a des micros directionnels, les micros prennent ce qui est à l'arrière d'eux-mêmes, puisque le son se réfléchit sur toutes les parois du lieu. Donc, lorsqu'on fait une prise de son, on prend quelque chose qui est trop riche, trop important, trop gros toujours. Et pour moi, la question la plus essentielle dans la prise de son et dans le jeu avec le son, c'est d'organiser ce que l'on veut donner à entendre. C'est-à-dire de trouver des systèmes pour creuser la surabondance du réel. Et pour moi, travailler avec le son, c'est convoquer des éléments sonnants dans un espace et organiser des liens, des plans, des profondeurs, le temps.
Quand on a lancé, Jean-Guy Lamège a lancé l'extrait du film La vie moderne, c'est un film de 2008, vous avez dit « Ah, il est à moi celui-là, Claudine Nougaret ». Alors est-ce que vous nous en parlez de cet extrait sonore?
Oui, enfin, c'est un extrait que j'aime beaucoup, c'est le début du film La vie moderne et on est dans le camion avance, comme ça d'abord il y a une voix off qui a expliqué qu'on s'approchait des fermes et la caméra est sur un camion et arrive un troupeau de moutons. et on entend très distinctement les cloches. On coupe le moteur, on entend très distinctement les cloches, on entend le berger qui appelle son mouton, et puis on se retrouve au milieu des moutons. Et alors dans la salle de cinéma, c'est en 5.1, il y en a partout des moutons. On est complètement immergé par les moutons. Et ce moment de prise, de son, il y a beaucoup de grâce. Parce que la grâce, elle vient quand les éléments s'enchaînent les uns après les autres. Mais contrairement à ce que venait de dire la personne tout à l'heure...
Daniel Day, dans cette archive.
Daniel Day, moi, je maîtrise pas. Je fais en sorte d'être prête à tout. Et la vie, elle a plein de grâce, des fois. Des fois, vous marchez dans la rue, puis quelqu'un interpelle quelqu'un d'autre à une fenêtre, et une porte qui claque. Voilà, et c'est la musique de la vie. Et vous êtes là, à ce moment-là, avec le micro au bon moment. C'est un peu l'instant décisif.
Comme
Cartier Boisson.
Tout à l'heure, Lucie Riandet disait finalement, il y a une partie du travail qui consiste à rendre un certain étonnement face au réel. Et puis là, vous parlez de la grâce, mais encore faut-il y être disposé, encore faut-il y être disponible. Ce camion qui avance sur la route, qui se rapproche de la ferme, bon, il tombe bien ensuite après dans le montage du film. Mais à ce moment-là, ça veut dire que vous êtes prête à prendre ce son. Vous êtes prête à entendre arriver ce troupeau, à entendre arriver la voix de cet homme qui va appeler son chien. Vous êtes prête à enregistrer le réel et l'étonnement ou la grâce qui va avec.
Oui, en fait, j'ai mis un dispositif qui permet ça. Mais je savais pas que le troupeau allait arriver à ce moment-là. J'avais effectivement un dispositif qui permettait d'entendre sur les côtés et sur l'avant. En fait, j'ai toujours aimé spatialiser le direct. J'ai fait un film qui s'appelle Paris, dans les rues de Paris, et je voulais enregistrer la symphonie de la ville. Et donc, j'avais disposé deux micros à l'avant, deux micros à l'arrière, et on filmait les sorties de foule dans les gares. C'était l'histoire d'un garçon qui cherchait une fille pour faire un film, et il interpellait les passantes, leur disait « Est-ce que vous voulez vous raconter votre vie pour savoir si je peux faire un film avec vous ?» C'était quand même assez tiré par les cheveux. Et donc, on filmait des foules et des foules, gare Saint-Lazare à la Défense, et il y avait des bruits de pas, des sifflements de train, et tout ça. Et donc, le film, comme ça, il y avait une symphonie de la ville qui était épatante, quoi. Donc j'avais disposé des micros comme ça partout. Bon, le problème, c'est que le film, il est sorti le même jour que le Titanic, donc ça n'a pas du tout marché.
Ah ouais, moi j'étais voir Titanic, je m'en souviens. J'étais toute jeune, mais je dois avouer que j'ai été voir Titanic ce jour-là. Vous dites « je contrôle rien », Claudine Nougaret, et en même temps, moi j'ai été assez fascinée parce que vous avez raconté justement à propos du son de la vie moderne en disant « on voulait surtout pas faire carte postale ». On voulait surtout pas que cette vie agricole ressemble à une carte postale comme ça de l'ancienne France rurale qu'on irait nous visiter et filmer. Alors, on a enlevé les coques.
Oui, on a enlevé les coqs et les chiens. Parce que, d'abord...
Au son, hein, donc il faut être clair. C'est-à-dire qu'au moment du montage son...
Oui, au moment du mixage.
Vous avez gommé les moments.
Parce qu'il n'y avait pas de montage son, on l'a fait au mixage. On a déjà au montage, tout court, ils ont évité les coqs et les chiens. Et quand il en restait 2-3 au montage, au mixage avec Gérard Lamps, on les a enlevés. Parce que c'était le troisième film sur les paysans. Et on entendait ce que le public nous disait, la nostalgie, la carte postale, tout ça, et on voulait absolument pas faire ça. On voulait pas du tout être dans les stéréotypes sur les paysans. Parce que on trimballe toute une imaginerie sur les paysans, alors on va tuer le cochon, après on va prendre la charrette avec le foin, après on va, voilà, toute cette carte postale comme ça. Et on a voulu casser et parler des humains et parler de ces personnes et de ces paysages, mais sans être pourri par cette culture sur la paysannerie.
Alors que bon. Des coqs, il y en a, et des chiens, il y en a aussi. Mais d'une certaine manière, c'est comme si vous aviez voulu, comme un peu,
ne pas être
raréfié, ouais, raréfié pour qu'on puisse quoi se tendre l'oreille en fait.
L'exemple, c'est comme si quand vous filmez dans un aéroport et si vous mettez les passagers, une annonce, voilà, c'est pas la peine. Vous êtes dans un aéroport, vous n'êtes pas obligé de remettre une annonce à l'image. On voit bien qu'on est dans une ferme. On n'a pas besoin de mettre un coq. Parce que sinon, voilà, qu'est-ce qu'il y a à découvrir d'autre? Il n'y a plus rien, on sait, on a compris.
Alors que justement, vous voulez qu'on puisse découvrir autre chose. On va justement écouter un extrait de Profil paysan, mais cette fois, c'est le film de 2005, Le quotidien. On assiste à des funérailles. Le plan est incroyable. Tout est en coupe comme ça. Tout semble pencher de la montagne à la manière dont les visages habitent le plan et on prend la parole au moment d'enterrement.
Pour Louis, les souvenirs que j'ai de Louis Bresse, C'était les champs. C'était ces vaches. C'était ces lapins. C'était ces chèvres. À chaque fois qu'ils montaient là, à travers la colonie, pour prendre un peu d'herbe pour ces lapins. Louis Bresse, c'était Grisac. Et je pensais vous lire, un peu comme un écho de cette confession de foi, ce psaume 121. Ce psaume 121 qui nous dit « Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. » Amen.
Ni la lune pendant la nuit, c'est joli.
Ni la lune pendant la nuit, c'est-à-dire ?
Le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit.
C'est vraiment une séquence extrêmement émouvante de ce film Le Quotidien. Et ça fait partie des extraits que vous donnez à voir et à entendre dans cette exposition à la BNF, Claudine Nougaret. En écoutant les extraits qu'on passe comme ça, on se faisait la remarque au casque, Charlotte Roux disait la porte. C'est une sorte de motif comme ça récurrent. Et hier, Lucie Riandet, en sortant l'exposition, a interrogé la place de la culture chrétienne. Là, il se trouve que ce sont des prières, qu'on termine sur un amen. Tout à l'heure, on parlait de grâce et d'étonnement. Ça a quoi comme place, vous pensez, dans le cinéma, dans la manière de faire du son ?
Je pense que le cinéma, c'est un peu la messe. Hein. C'est-à-dire, tout le monde se rassemble devant l'écran et en silence.
Messe païenne ?
Ah oui, c'est une messe, là, le cinéma, et on y croit. Et quand vous rentrez dans une salle de cinéma, c'est pour y croire. Comme à l'église, c'est la même chose. Et donc ça fait appel à nos références culturelles bien ancestrales, le cinéma. Et donc moi, le son direct, là c'est des protestants.
Qui ont le droit d'enterrer leur mort au bout.
Au bout de leur champ, et ça c'est des protestants dans la Lozère, qui ça date des persécutions des protestants. Mais c'est des personnes qui nous ont accueillis avec un grand sens de l'hospitalité et une grande générosité, puisqu'on continue à aller les voir. Et effectivement, il y a beaucoup d'amour dans ces trois films, Profit de paysan. Ça, c'est sûr. Alors, c'est pareil, c'est la religion catholique, peut-être. L'amour.
Pas que, j'espère. Comment est-ce qu'on accueille avec un micro, ou avec plusieurs micros, ou avec son écoute, Claudine Nougaret ? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes accueillie, certes, votre équipe de tournage est accueillie avec Raymond Depardon, mais vous aussi, vous accueillez d'une certaine manière ?
C'est-à-dire que souvent, je me retrouve aussi à faire signer des gens, puisque maintenant, en documentaire, on est obligé d'obtenir l'autorisation de tournage des personnes filmées, donc je suis souvent en première ligne. On se partage ça avec Raymond et c'est moi qui accueille les gens et qui explique notre démarche et qui leur fait comprendre. Et dans le cas, par exemple, du dernier film 12 jours, on a travaillé avec des personnes qui étaient hospitalisées sans consentement. Donc c'était assez compliqué. Il y avait des tuteurs, il y avait des magistrats, tout ça. Et donc ce qui est toujours très, très émouvant, c'est que ces personnes qui sont très, très sensibles et qui vous disent si je peux servir à quelque chose, si je peux vous aider. Alors que c'est une responsabilité énorme, en fait. C'est ces gens fragiles qui nous donnent tout ça. Je trouve que c'est très impressionnant. Donc voilà, vous me demandiez comment on accueille. Je pense à cette partie de mon travail. Au son, nous, on se fait très discret. On essaye de disparaître et à l'image de la même façon pour laisser s'épanouir la séquence. Donc je ne peux qu'essayer de le restituer avec le plus le plus de qualité.
Tout à l'heure, à savoir si vous étiez adoubé ou si vous aviez été adoubé par quelqu'un, vous avez répondu Romer, on n'a pas développé, mais c'est l'occasion de l'entendre.
Il y a place au cinéma pour une certaine façon de raconter des choses et pour certaines actions qui n'ont pas été montrées jusqu'ici. En particulier, on n'a jamais osé au cinéma montrer des personnes qui avaient une véritable conversation. On a peur, effectivement, que la parole l'emporte sur l'image. Il faut chercher dans cette voie, c'est un domaine nouveau qu'on peut explorer. Quelle action, en fin de compte ? Qu'est-ce que c'est que l'action au cinéma ? L'action se réduit à un nombre de gestes extrêmement limités. surtout dans la vie moderne. Si on raconte une histoire dans laquelle on ne veut pas qu'il y ait de bagarre, ni de poursuite, ni de mort, ni de crime, etc., et dans ce cas-là, que montrera-t-on ? On montrera des choses extrêmement monotones. Si l'on veut être vrai, en fin de compte, il faut accorder une grande importance à la parole. Et le cinéma, vérité, accorde une très grande importance à la parole.
Pigeon.
Putain.
Ça me saoule un peu.
De
tout.
Tout ?
Ah ouais. Ah ouais. J'en ai marre.
Qu'est-ce qu'il y a ?
J'en ai marre. Vivement qu'il passe ce putain de bac.
C'est le bac qui t'angoisse ou quoi ?
Bah ouais, mais là en ce moment je fais que y penser.
Ouais, moi aussi, mais faut pas y penser. Tout se joue dans la pensée. Moi je suis futur psy, je peux te le dire.
D'accord.
J'aime trop parler avec les gens.
Mais toi je te vois pas psy, mon pote. Mais toi t'aimes bien qu'on t'aide, mais aider les autres, ça. Ça leur fout.
Si, j'aime bien aider les autres.
Sur la gueule, ça c'est sûr.
Non, j'aime bien aider les autres.
Ouais, d'accord. Ouais,
j'ai bien aidé Tiffany là.
Ouais,
elle a un problème avec son copain, je l'ai bien aidé, elle m'a dit merci, c'est mon psy à moi.
Ouais, putain. Ouais,
je suis un bon psy, ça c'est sûr. Je pourrais faire carrière. Psychologue. Mon grand cabinet comme ça.
Ouais, comme dans mon quoi.
Un gros palace. Plus de 300 000 euros la consultation.
Ça doit être pas mal, psy de flic. Hein.
Psy de flic.
Ouais. Les psy pour les flics.
Et toi, tu veux faire quoi en fait, tu m'as dit ?
Commercial.
Commercial ?
Ouais. Et vas-y, critique.
Non.
Non,
non, vas-y, c'est un truc, tu fais ce que tu veux.
J'en ai marre que tu critiques tout ce que je dis aussi.
Il joue, ces deux-là, c'est marrant. À la fois, il joue et en même temps, c'est une conversation que vous avez, vous allez décrire le dispositif des habitants, mais comme attrapé dans la rue. Juste avant, c'était une archive de 1969, Éric Rohmer qui parlait de la place qu'on peut accorder ou que le cinéma, entre guillemets, vérité, accorde à la parole. Les habitants, c'est que ça, ou presque que ça, de la parole, des conversations.
Je connaissais pas cette archive d'Éric Rohmer et ça me fait très plaisir d'entendre ça parce que Éric m'a fait confiance pour Le Rayon Vert, qui est le seul film non écrit d'Éric Rohmer, qui est complètement improvisé et qu'on a tourné pendant 2 mois, pendant tout un été, à travers toute la France. Et il avait une grande confiance en tout le monde et c'était formidable, quoi. Effectivement, moi, il m'a doublé.
Ça passe par quoi ? Avoir confiance en Claudine Nougaret sur Le Rayon Vert à l'époque ?
Bah, à l'époque, moi, j'avais 24 ans, donc c'était pas forcément évident. Il sortait du deuil des Nuits de la Pleine Lune. Pascal Augier venait de disparaître et je crois qu'il avait envie de faire une rupture avec tout ce cinéma qu'il avait mis en place pour les Nuits de la Pleine Lune. Donc, il y avait que des personnes inexpérimentées. Enfin, on n'était pas complètement inexpérimentés, Sophie Maintenu et moi, mais quand même, on n'était pas Nestor Almendros, ni Jean-Pierre Rue, qui étaient quand même les deux stars techniciennes qui étaient sur le film précédent. Et donc, il nous a emmenés dans un voyage à travers la France et on guidait aussi bien Marie que nous, on proposait, il jouait avec nos propositions. Et on n'a pas eu l'impression de faire un long métrage, en fait. On a eu l'impression de faire un court métrage. On se dit, oh, il va jamais rien en faire. C'est pas écrit, c'est pas du tout son style, etc. Et quand le film a été sélectionné à Venise, ça a été la grande surprise de tout le monde. On s'y attendait pas du tout.
Qu'est-ce que vous avez reconnu de votre travail dans Le Rayon Vert ?
Ah ben, c'est quand même assez étonnant parce que j'ai tout fait toute seule à un seul micro. Donc, il n'y a rien de... C'est exactement la même démarche que les films que j'ai fait par la suite avec Raymond Depardon. C'est-à-dire que Dominique Hannequin, qui a mixé le film, il n'y avait pas de montage son à l'époque. Tout est droit. C'est-à-dire que les scènes qui sont sur la plage sont encore écoutées de la même façon, sans fioritures, sans micro-HF, sans rien du tout. Et aujourd'hui, je crois que personne ne ferait ça, en fait. Personne ne partirait tout seul avec un magnétophone et une perche pour faire ça, quoi. Il fallait être vraiment passionné et convaincu, puis amené par Éric, quoi. Être toujours meilleur, quoi.
Juste après, on entend un extrait du film Les Habitants, né en 2016. Donc, c'est deux jeunes hommes qui conversent comme ça. Est-ce que vous pouvez rappeler le dispositif de ce film-là et en quoi ce que dit Rohmer dans l'archive qui précède, à savoir que une forme d'action, ça peut être juste des gens qui parlent, se retrouve assez bien traité, assez bien expérimenté dans Les Habitants?
À l'issue d'une projection de ce film, Gabriel Bergugno et Olivier Daubé, deux chercheurs en linguistique, sont venus me voir et en me disant bah, « Écoutez, vous avez filmé toutes ces personnes, on veut vos bandes-sons, on veut travailler sur la matière sonore. » Parce que notre démarche était de filmer des conversations à travers toute la France, pour travailler sur la disparition des accents, pour écouter ce que disaient les Français. après avoir travaillé en photo pendant très longtemps sur la France, on avait décidé de faire ce tour de France et d'être à l'écoute des Français. Et la grande particularité, c'est que les gens que l'on filmait étaient déjà en train de converser dans la rue. Donc ils se connaissaient. Donc ils avaient une facilité pour la conversation, puisqu'ils avaient déjà commencé et puis qu'ils se voyaient régulièrement. Donc on avait installé une petite caravane sur les places des villes ou des villages, plutôt des villes d'ailleurs, et les gens s'installaient avec un dispositif, on était cachés derrière un mur, et ils étaient tout seuls et ils disaient ce qu'ils voulaient. Et on a filmé à peu près 95 personnes, et on en a monté, je crois, 12 ou 14. Et donc ce qui intéresse les chercheurs, c'est de voir l'évolution de la parole des Français. Et ils nous ont demandé toutes nos archives sonores, donc depuis 87, depuis que je travaille avec Raymond Depardon, donc depuis Urgence, pour pouvoir connaître plus, de façon plus approfondie, la façon de parler des Français. Et ça sera accessible à tout le public.
Puisque ce sont des fonds d'archives qui sont versés à la Bibliothèque nationale de France et qu'on peut même voir à l'écran, c'est très très beau, des grains de voix comme ça, analysés en précision, les intonations, les moments de surgissement des mots ou du silence, bref. On n'a pas parlé de l'intermittence et de la maternité, mais on dit à tout le monde que c'est très compliqué.
Oui, c'est pas simple.
C'est pas simple. Salut Lucie.
Au revoir.
C'était tellement chouette de t'avoir avec nous pendant 6 mois.
The wind has gone, the invisible come, your memories are being run. The mountains scarred by invisible bars, the stillness is on guard.
La prise de son ce soir, c'était Jean-Guilain Meige, à la réalisation Charlotte Roux. Par les temps qui courent, c'est Lou Quevauvilliers, Lucie Riandet, Jeanne Aléos, Romain de Bec-de-Lièvre et Marianne Chassor. C'est aussi une page que vous pouvez retrouver sur
franceculture.fr.
Invisible here, come my thoughts away.